Donc, au nom de la municipalité, je vous accueille tous et nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui sur un sujet qui est certainement passionnant, mais qui est certainement aussi, à certains égards, un peu austère. Voilà. Donc, nous comptons sur les lumières de Gérard et de M. Roux pour nous éclairer sur la personnalité complexe et passionnante d'Alexandre Brotendijk, puisque sa carrière de mathématicien, on peut dire que d'une certaine manière, il la doit au fait d'avoir été accueilli à la Gestapo au Chambon pendant la guerre, en sortant du camp de c'est à ce geste-là qui tient sa survie, et donc nous avons la chance d'avoir eu ce mathématicien tout à fait exceptionnel au cours du XXe siècle. Voilà, je n'en dis pas plus, je ne suis pas spécialiste des mathématiques non plus. Place aux orateurs.
Je vais rajouter un petit mot, mais rapide. Merci à la bibliothécaire pour tout le travail qu'elle a fait, pour l'accueil avec ses collaboratrices, pour un accueil, elle a fait une communication assez importante, on peut le constater maintenant. Merci pour votre travail. Donc, moi j'accueille aussi Dominique Roux. Je l'ai entendu il y a deux ou trois mois au lycée Simone Veil, devant d'anciens enseignants retraités. Et donc j'ai été très attentif à cette causerie sur les maths. Contrairement à ce que nous explique Denise, ce n'est pas austère, c'est très très vivant. Donc c'est pour cela. Alors on a scindé, je suis d'accord, on a scindé cette causerie en deux temps. D'une part, très rapidement, 10 minutes, la situation de Brotendijk sur le plateau, comment ça s'est passé. Et puis, Dominique évoquera son sujet un peu technique, mais en connaissance de cause. Donc, on a une voix qui porte l'un et l'autre. On va pouvoir commencer. Bon. Je vais être obligé aussi encore de lire un petit peu mon texte pour ne pas faire de digression, mais ce n'est pas une excuse. Si la géométrie algébrique révolutionnée par Brotendijk reste inaccessible au commun des mortels, le vécu de l'adolescent semble parfois impénétrable, bien qu'il s'agisse d'une enfance épouvantable. Il est le fils d'un révolutionnaire ukrainien, portant le nom de Sacha, d'origine juive, interné au camp du Vernet, et qui est assassiné en 1942 à Auschwitz. Sa mère est aussi une anarchiste allemande, luthérienne, semble-t-il. Alors, souvent, dans les documents que l'on a, on voit différentes orientations. Hein. Avec sa mère, il fuit l'Allemagne. Il a dès lors 11 ans. 1940, donc, ce jeune Alexandre est enfermé avec sa mère dans les baraquements insalubres du camp d'internement de Rieux-Crot, c'est près de Mende, en Lozère. Ce n'est même pas un camp d'internement. Bien des historiens l'ont qualifié de camp de concentration. Là, dans ce camp, il y a essentiellement des femmes, 500 femmes. Brotendijk Alexandre, je vais l'appeler, est autorisé à se rendre au collège de cette petite ville lorésienne. Et lorsque le 14 février, donc il y reste donc pendant deux ans, 14 février 1942, le camp de Rieux-Crot est fermé par les gendarmes français. On évacue tous ces internés, on les transfère à Brems. Brems, c'est dans le département du Tarn. Quelques mois après cette arrivée, au mois de juin, la mère de Brotendijk, Anka, est séparée de son fils. Et il faut attendre presque plusieurs mois pour qu'une intervention des équipières de la CIMAD, je ne vais pas expliquer ce que c'est la CIMAD, association caritative, pour aider les réfugiés, et la CIMAD va placer Grothendieck dans une maison d'enfants au Chambon-Solignon. Il y a 15 jours, il y a eu la présentation d'un film. Et pendant ce film, on a pu entendre des choses un peu différentes de la présence de Grothendieck sur le plateau, notamment le lieu où il a été placé. Il y a, chemin de la Croisière, près du collège Chenol, une petite maison qui accueille des enfants. Ce n'est pas du... On nous a dit que c'était là. Non, pas du tout. C'est route de Saint-Agrève, pratiquement à mi-chemin quand on arrive au Homme-Gérard, qui est la maison de retraite. Et cette maison d'adolescents est nommée par sa directrice la Gespi. La Gespi, la signification du toponyme, c'est certainement la guêpe. Cette maison est créée par le Secours Suisse aux enfants, qui a ouvert plusieurs maisons sur le plateau et notamment au Chambon-sur-Lignon. La directrice de la Gespi s'appelle Juliette Usache et elle est elle-même une réfugiée espagnole, protestante et médecin. Elle est sur le plateau depuis 1938. Elle a accueilli beaucoup d'indésirables, je parlais des Espagnols. Et puis elle a fondé une petite maison pour accueillir déjà des réfugiés anti-nazis qui ont fui la zone nord. Donc Juliette Usage va s'occuper dans cette maison d'une trentaine de jeunes, principalement des juifs allemands, extrait du camp de Gurs, encore une fois, près de Pau. Parmi ces jeunes, je vous donne quelques exemples. Il y a par exemple Rudi Appel, qui est soit néerlandais, soit allemand. On ne sait pas très bien ce qu'il est. Joseph et Victor Atlas, ce sont des Polonais réfugiés au Chambon. Anne Hirsch, là encore. Alors, Anne Hirsch, Denise, vous allez comprendre, elle est l'épouse de M. Liegermann, que vous avez rencontré.
Liegermann,
que vous avez rencontré à New York. Ils sont les seuls rescapés de cette maison. Hein. Lily Brown, encore une fois, qui arrive à partir aux États-Unis, et Wiltrud aînée, que nous on a pu la rencontrer lors de l'immigration du lieu de mémoire, 1913. Et là, c'est maintenant 14. 2013. Donc, ces jeunes hommes vont souvent au collège Chenol. Ça s'appelle pas le cochon neuf, ça s'appelle l'école nouvelle Sévenol, pendant cette période. J'aimerais quand même signaler que le lieu de la Gespi est en plein sur le passage de la route qui va à Saint-Agrève, et à quelques centaines de mètres de la Gespi, il y a le foyer universitaire des Roches, la maison des Roches, où cette fois-ci, ce ne sont plus des adolescents, ce sont de jeunes hommes. Et ce foyer a été raflé au mois de juin 1943. On peut, par les Allemands, on peut imaginer à la Gespi ce qui a tout se passé lorsqu'ils ont vu tôt le matin des camions qui embarquaient tous ces jeunes hommes. Il y a eu certainement une souffrance et une inquiétude fort conséquente. Donc on en parlera peut-être après si on a un peu de temps. On a des témoignages de Grothendieck qui sont maintenant un peu connus, mais je prends celui de Rudi Appel. Voici ce qu'il dit. Nous étions de bons amis. Il parlait le français mieux que moi et souvent nous conversions en allemand. À l'époque, tout le monde s'était rendu compte qu'Alex était très intelligent et que le travail scolaire lui était facile pour lui. Alex était déjà un rebelle, il n'aimait pas se soumettre à une autorité et donc avait souvent des problèmes de discipline avec la directrice. Pour elle, plus d'une fois, il a été nécessaire de mettre un intermédiaire entre lui et Mademoiselle Usage pour lui demander de s'excuser auprès d'elle ou auprès d'un autre enfant. C'était une chose difficile pour lui. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer que j'ai été en contact en 2006, pendant plus de 6 mois, avec Alexander, pour parler, par des écrits, une trentaine de lettres, pour évoquer son séjour à la Gaspé. Et on peut constater dans ce document qu'à l'époque, il explique qu'il y avait une certaine violence contre les jeunes, une certaine agressivité par rapport à les moniteurs, mais que 40 ans après, quand il écrit, il demande pardon, il veut retrouver ces jeunes. Malheureusement, il n'était plus possible de retrouver ni la directrice, ni les jeunes enfants. Ce moniteur qui accompagne tous ces adolescents, M. Teckler, est un réfugié autrichien. Il sera arrêté lors de la RAF de février 43, et puis grâce à des personnalités du plateau, il sera libéré. Voici ce qu'il dit sur ce moniteur. Il était l'objet de nos moqueries, de tourments et de mépris systématiquement, jour après jour, chaque fois que l'occasion s'en présentait, et c'était souvent. La scolarité, maintenant, de Grothendieck, pendant ces 3 années, 42 à 45, elle se déroule au Chambon, à l'école Nouvelle-Chénol, ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelait le collège Chénol. Je précise que en 43, l'école Nouvelle-Chénol, elle est partout dans le village. Hein. Il y a une maison, pratiquement une salle de classe, près de l'eau vive. Près du presbytère protestant, dans les hôtels. Si Roland Lombard était là, il nous expliquerait aussi comment ça s'est passé dans sa famille. Et je rappelle quand même que cette école a été fondée par deux pasteurs, Édouard Theiss et André Trocmé, 1938. À l'école Nouvelle-Chénol, on ne chante pas « Maréchal, nous voilà ». On ne voit pas non plus le portrait du maréchal dans les classes qui sont dispersées et dans les maisons et les pensions du village. Bon élève, censé être brillant, Alexandre fait des maths pendant que d'autres jouent aux pirates. Voici ce qu'il dit dans un ouvrage, c'est pratiquement l'un des rares ouvrages que l'on possède, Récolte et semaille, voici ce qu'il dit. Je passais mon temps à résoudre des problèmes de maths. J'ai dévoré dès le début de l'année tous les manuels. Qu'est-ce qu'il a fait le reste du temps? Il a retravaillé pour lui. Il ne s'est plus occupé. Je crois que la professeure de maths était Madame Dreyer, pour les gens qui sont du plateau. Si quelque chose me passionnait, je ne comptais ni les heures ni les jours. En quelques semaines, j'ai intégré un vocabulaire latin. Il y a des camarades qui faisaient le latin, qui s'y intéressaient, et en quelques jours, il était plus formé au latin que ses camarades. Ce qui me satisfaisait le moins dans mes livres de maths à l'école, c'était l'absence de toute définition sérieuse de la notion de longueur, d'une courbe, d'une surface, d'un volume. Je me suis promis de combler cette lacune dès que j'en aurai le loisir. Au collège, à l'école Nouvelle-Chénol, il y a un seul professeur qui l'apprécie simplement, c'est son professeur de sciences naturelles et de physique. Il est le seul qui l'intéresse, car je le cite encore, il possède des qualités humaines remarquables, mais il n'a aucune autorité sur ses élèves. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas entamé des études de biologie. Henri Friedel, c'est un homme qui était d'une finesse et d'esprit remarquable, qui a marqué la génération de cette période, avec un talent pour comprendre et aider les autres à saisir l'essentiel d'une question. En tout cas, je pense que cet éducateur généreux évoque avec Alexandre des sujets tels que la solidarité, l'autonomie, l'esprit critique, la responsabilité. En juillet 45, au Puy-en-Velay, à l'âge de 17 ans, il réussit avec mention son baccalauréat en maternelle. À la fin de l'année, il a retrouvé sa mère en fin 44, car elle a pu venir dans une maison de repos au Coteau-Fleury. À la fin de l'année, il a décidé d'étudier les mathématiques. Je vais vous laisser la parole. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin et profiter de connaissances de Dominique.
Merci, Gérard. Merci à tout le monde d'être si nombreux et j'espère pas trop mal installé parce que j'en vois même un chef d'établissement assis par terre, c'est un service. Bon. Et merci aux deux dames qui ont introduit la séance. Alors, je vais vous parler d'un homme qui est certainement l'homme le plus extraordinaire qu'il m'a été donné de rencontrer dans mon existence. Je l'ai rencontré simplement 3 jours, mais enfin c'est un souvenir immense quand même. Et on peut dire déjà une chose, il est absolument exceptionnel dans l'histoire des mathématiques, parce que c'est de loin le plus grand génie mathématique qui ait jamais existé. Hein, très au-dessus de tous ceux qui ont précédé, Newton, Descartes, Archimède, etc. etc. Pourquoi plus grand ? Par l'abondance de son œuvre, d'une part, et par la profondeur, la complexité de ses idées. À tel point que son œuvre est tellement complexe et immense qu'elle n'est pas connue, même par les spécialistes. Et aujourd'hui, plus de la moitié de son œuvre n'est comprise par personne, même les plus grands spécialistes de la planète. Donc, il faudra attendre des décennies, peut-être même des siècles, pour comprendre l'ensemble de sa démarche et de ses idées, et voir les conséquences. Vous avez peut-être un point dans vos connaissances de l'Évariste Galois. Vous savez que c'est un très grand génie des mathématiques. Il a eu une idée dans sa vie, Galois, géante, qui a permis de débloquer un gros problème concernant les équations algébriques. Eh bien, Grothendieck, lui, en a eu 12 de même tonneau, de la même profondeur. Et pour à peu près la moitié, ben, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Il y a des idées comme la théorie des motifs, par exemple. On ne sait pas où ça va, et ni ce qu'il y a dedans. Lui-même comprenait-il ce qu'il y avait dans la théorie des motifs ? On n'en est pas sûr. Enfin, il y a des points comme ça. La théorie des topos, si je peux vous en parler un peu, c'est très intéressant parce que c'est une nouvelle façon d'approcher la logique aristotélicienne. Il n'y a pas oui et non. Il y a des intermédiaires, même en mathématiques. Alors, essayons de prendre les choses un peu dans l'ordre, et j'ai malheureusement pas tant j'ai l'impression. Il faut insister sur l'aspect surhumain de son travail et sur l'aspect exceptionnel de sa personnalité, qui est déroutante et qui était peu agréable. Hein. Son dernier élève, Yves Ladegary, qui était un de mes camarades de promotion à l'École normale supérieure, qui est devenu ensuite directeur de recherche à Montpellier, a fait sa thèse avec lui. En détail, il faisait leurs travaux dans les champs, dans les montagnes au-dessus de Montpellier, en gardant les moutons à la lampe à pétrole. Vous voyez le surréalisme des hautes mathématiques en plein dans les champs. Alors, Yves me disait, j'admire l'œuvre, mais je n'admire pas l'homme. Pour que ce soit un modèle, hein, pas un modèle à imiter en tout cas, et pas un modèle à envier, parce que c'est un des hommes qui a le plus souffert qu'il soit dans sa vie. Il a souffert de toutes les façons possibles. Et il a connu un très grand nombre de ruptures. Bon, à commencer à l'adolescence, où ses deux parents, qui étaient des anarchistes farouches et enragés, l'ont tout simplement jeté. Débarras. Allez, au revoir. Et l'ont confié à un pasteur, et comme ça, ça a circulé. Et le petit Grothendieck a failli mourir d'anorexie. plus tard, il a réalisé que ses parents l'avaient jeté comme ça et s'étaient débarrassés de lui. Il n'en a jamais voulu. Au contraire, il avait une très grande admiration pour ses deux parents. Il écrit des pages admirables sur son père, qu'il considérait comme un prophète de l'avenir, sur sa mère, qui était pour lui une écrivain magnifique, en écrivaine. Et tous les deux, il a beaucoup d'admiration. Il a collectionné 25 000 lettres qu'il y avait entre eux. Il les a épluchées, recomptées. Il a essayé de trouver tous les camarades du père au camp de Ryotrow qui sont partis en train à Auschwitz. Il y en avait des milliers, il a tout suivi à la trace. Bon, il était passionné par ses parents et il voulait prendre la suite de l'œuvre de son père qui avait un message pour l'humanité à ce sens. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il aurait très bien pu ne pas être mathématicien. Un très bon lecteur de Gottendieck, c'est Laurent Laforgue, qui est un grand mathématicien d'aujourd'hui, qui dit, Gottendieck est avant tout un écrivain. C'est pas un mathématicien au départ, c'est un écrivain qui a fait des mathématiques. Il faut aussi se dire, ce n'est pas un savant, pas du tout un savant. Il y a eu des grands savants dans l'histoire, mais lui, c'est pas un savant, c'est un créateur. Il a une vision, il est un visionnaire, il a une imagination qui fait percevoir des choses que personne ne voit. Et là, c'est là qu'il fait avancer la science d'une façon extrêmement originale et personnelle, et que personne n'avait pensé auparavant, pas plus que personne n'avait pensé l'idée de Galois avant Galois. Et bien là, il y a encore beaucoup d'idées nouvelles qui sont dans les secrets des armoires de la Bibliothèque de Paris, parce que pour la moitié de ses écrits, ils n'ont pas été lus, ils sont archivés, et on attend le décryptage. Une moitié a été déjà numérisée pour ce qui était des écrits de Montpellier, mais pour l'autre moitié, c'est encore en réserve. Et il y en aura pour des dizaines d'années ou des siècles à comprendre et à lire ce qu'il y a, qui est de deux natures, mathématique d'une part, et philosophique d'autre part. Et quand je dis philosophique, ça dépend sur la mystique. Alors les ruptures, mais il y a eu la naissance, après, bon, il y a eu la séparation avec son père, ensuite avec sa mère, ensuite d'autres ruptures qu'il a causées par lui-même ensuite, hein, parce que c'était un caractère assez difficile. Certains ont dit qu'il était paranoïaque, je ne sais pas si c'est pas un peu exagéré. Quand je l'ai connu, moi, il me paraissait très équilibré. Et en tout cas, comme on l'a dit, il parlait très bien français, avec un accent allemand d'abord. Mais il connaissait les finesses de la langue française, et dans ses écrits, on le voit, il utilise toutes les ressources de la langue française, ce qui fait qu'il a un style particulier. Sa quatrième femme, Leila Schneps, dit qu'il y a un style Gottendieck très très intéressant et poétique à la fois, érotique, il y a des différentes choses, historiques, mystiques, et donc il y a différents aspects. Qui fait que c'est un écrivain pas comme les autres, mais un très bon écrivain, très magnifique. Laurent Laforgue dit c'est magnifique son œuvre. Il y a des passages absolument magnifiques. Ça vaut la peine d'être lu. Il y a deux ouvrages que vous pouvez approcher par internet, parce qu'ils ne sont pas publiés sous forme papier. Seuls les Japonais ont publié en japonais Récolte des semailles, qui est un ouvrage de 1500 pages. En français, il a été présenté sur Internet, bien accessible, ramassé en une page et bien lisible. Alors que là, dans Récolte des semailles, il y a quand même quelques passages qui ne sont pas de la langue vernaculaire. Il y a des passages carrément mathématiques. Mais au début, vous pouvez lire des choses intéressantes et bien lisibles sur sa vie, sur l'histoire du groupe Bourbaki, sur sa pensée et sur ses combats avec ses collègues, parce qu'il s'est mis à dos tout le monde, tout simplement tout le monde, par son mauvais caractère. Et par contre, l'autre texte que vous pouvez lire également sur Internet, et uniquement sur Internet, s'appelle « La clé des songes ». Et lui, est bien plus lisible, en fait, à mon avis. C'est d'ailleurs celui que commente Laurent Laforgue. Il a une très bonne vidéo qui s'intitule « La notion de vérité ». Chez Gottendieck et dans La clé des songes. Alors La clé des songes, c'est un ouvrage qui au départ démarre sur l'idée que Dieu est le grand rêveur. Voilà l'idée de Grothendieck. Dieu est un rêveur. Et il communique avec nous par des rêves. Puis après, ça dit. Il y a des digressions, ça va plus loin, sur le sens de la vie, sur ce qu'est l'homme, sur la société, etc., etc. Donc là, ce sont deux très grands textes intéressants. À propos des livres sur Grothendieck, vous avez celui-là, Alexandre Grothendieck, de Georges Bringuet, c'est celui que je préfère, il est sérieux. Il y a l'autre aussi, qui complète un peu, il y a de Philippe Douroux, mais alors c'est un journaliste, donc il arrange un peu à sa sauce sur la journalistique, mais néanmoins ça complète parce que ils font pas, il y a des points communs bien sûr, mais il n'y a pas de uniquement des rôles.
À quelle époque vous publiez ? Les publiez ou les publiez pas ?
Alors, les textes, oui, alors prenons dans la chronologie. Il arrive donc au Chambon en 1942, oui, vous en avez dit, 42 à 45, après d'ailleurs avoir connu au camp du Vernet une jeune fille qui lui a donné l'étincelle des maths. C'est une jeune fille qui lui a dit un cercle, c'est un point et une longueur. L'ensemble des points, situés à la même distance, un point qu'on appelle le centre. Et Grothendieck a été émerveillé par la simplicité de cette définition et toutes les conséquences qui en découlaient. Toutes les propriétés du cercle, sur les angles, sur les tangentes, les perpendiculaires, etc. Avec une simple petite définition comme ça, il y avait des pages et des pages de mathématiques intéressantes. Alors là, il a compris ce qu'étaient les maths, et du coup, il s'est mis à en faire tout seul, à son rythme et à sa très grande vitesse, parce qu'il avait une vitesse prodigieuse de compréhension. Et alors après le Chambon, et où il a eu son bac, il arrive à Montpellier, avec sa pauvre maman, qui vit de petits ménages, lui, vie de récolte de fruits pendant l'été, ils sont dans un dénuement quasi total. Mais néanmoins, il est inscrit à la faculté des sciences de Montpellier, il ne va pas suivre les cours, il fait ses maths à lui tout seul. Et il invente le problème que Gérard Velon a évoqué, des longueurs, des surfaces, des volumes, une théorie qui permet de définir correctement ces notions mathématiques. Et en fait, il retrouve une théorie qui avait été faite par un grand mathématicien français, Henri Lebeil, à peu près 50 ans avant. Lui, il croyait avoir trouvé quelque chose de neuf, mais c'était la théorie de Lebeil qu'il avait retrouvée, alors que ça avait demandé beaucoup d'efforts à des générations de mathématiciens pour arriver à l'intégrale de Lebeil. Lui, en quelques mois, hop, il a ce manuscrit, et il va voir son professeur d'université, qui lui dit, bon, alors là, ça me dépasse, il faut que je l'envoie à Paris. Il a bien fait. Il aiguille sur André Magnier. Alors, il y a plusieurs André dans sa vie. André Troglé, qui est capital. André Magnier, c'était le doyen d'inspection générale de mathématiques qui reçoit ce jeune homme, visiblement meurtri, et ayant vécu des privations, des frustrations, des humiliations. Il lui présente ce document sur l'intégrale de Lebeil et Magnier se rend compte qu'il est face à un génie. La première chose qu'il fait, c'est lui donner une bourse pour survivre. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est d'aiguiller chez Cartan, qui était à l'École normale supérieure de l'ère d'Ulm, où il va suivre quelques cours, et Cartan lui dit, hop, il faut aller à Nancy, voir Bourbaki. Alors Bourbaki, c'est un groupe de 40 de mathématiciens qui ont voulu refondre l'ensemble des mathématiques à la façon dont les Grecs avaient travaillé du temps d'Euclide. D'ailleurs, Euclide, c'était pas un monsieur Euclide, c'était aussi un groupe, comme il y a un groupe Bourbaki, il y avait un groupe Euclide. Alors, le groupe Bourbaki était dirigé essentiellement par trois personnes. Il y avait encore un André Veil, frère de Simone Veil, avec un W, pas la ministre V, qui a été augmentée en quelque temps, avec un W, c'est-à-dire la philosophe. André Veil, frère de la philosophe qui a vécu au puits, qui est morte très jeune. Et qui est intéressante parce qu'il y a du parallélisme entre Grothendieck et Simone Veil. Alors André Veil, c'était le grand cerveau d'affaires, mais il est parti aux États-Unis à cause de sa judéité. Et il y avait à Nancy deux grands responsables, Jean Dieudonné, qui était l'éminence grise, et Laurent Schwartz, deux très grands mathématiciens. Alors Jean Dudonné était un type impressionnant, 1m90, plus de 100 kg, qui avait des rougeurs tout d'un coup parce qu'il se mettait en colère très vite, un regard insoutenable tellement il était violent, et qui poussait des hurlants et des gueulants terribles à effrayer un régiment. Alors Grothendieck se présente à eux, et aussitôt, Dieudonné hurle en disant « Mais c'est pas comme ça qu'on fait des maths, on fait pas des maths pour l'abstraction, pour l'abstraction, on fait des maths pour résoudre des problèmes. » Et Dieudonné et Schwartz, qui étaient les géants de la mathématique de l'époque, c'est-à-dire en 1950, hein, date 1950. Donc les choses démarrent à peu près pour Bourbaki en 1936, mais là, Grothendieck dans les années 50. Eh bien, il montre à Grothendieck 14 problèmes que eux deux ne savaient pas résoudre. 14 problèmes très difficiles, qui étaient carrément des sujets de thèse. Et ils disent à Grothendieck, bon ben, tu en choisis deux ou trois, et puis tu reviens nous voir quand tu auras une idée. 6 mois passent, silence de Grothendieck, au bout de 6 mois, il va aller revoir, il avait résolu 7 des 14 problèmes. Après, 6 mois passent à nouveau, il revient, il avait résolu les 7 autres, 14 sur 14. Alors, il s'est passé la chose extraordinaire, c'est que le géant Dieudonné, qui était le patron du manuscrit de Bourbaki, des œuvres de Bourbaki, ça a 40 volumes, hein, 40 volumes, ils écrivaient ça tout le temps avec un groupe et discutaient des états 1, état 2, état 3, état 4, état 5, les états successifs des manuscrits, très très, très très précis et très perfectionné, enfin très soigneusement élaboré. Eh bien, Dieudonné dit, maintenant, c'est toi le patron, tu prends ma place. Tu prends ma place et je deviens ton secrétaire. Et ça s'est passé ainsi, hein, c'est-à-dire que Grothendieck a pris les rênes du groupe Bourbaki. Seulement l'ennui, c'est qu'il avait ses idées à lui, qu'il ne collait pas exactement avec les idées de départ du groupe Bourbaki, et il aurait voulu refaire dès le début les fondements des mathématiques d'une autre façon. Et donc, enfin, ça ne fait rien, ils ont travaillé. Il y a eu un trio d'enfer, un trio qui comprenait Grothendieck, qui était le volcan en éruption. Il lançait ses laves dans la nuit. Au matin, Dieudonné récoltait les brouillons, les idées de Grothendieck, et tâchait de les mettre au propre. Et il y avait un troisième larron, Jean-Pierre Serre, qui est toujours vivant. Tous ceux dont je vous ai parlé là sont déjà morts, mais Jean-Pierre Serre est un survivant, il a plus de 90 ans. Et lui, c'était le modérateur. Il disait, alors lui, c'était un savant, lui. Jean-Pierre Serre, c'était un grand savant, très très cultivé, connaissant toutes les mathématiques presque de son époque. C'est difficile de dire ça parce que on pense que le dernier à avoir vraiment connu toutes les mathématiques de son époque, c'était Poincaré. Après, très bien plus difficile. Maintenant, plus aucun mathématicien ne peut prétendre connaître la totalité de la mathématique. Et même, dans sa spécialité, la totalité de ce qui s'y passe. Alors Jean-Pierre Serre avait toujours l'exemple ou le contre-exemple, il disait aiguillons-là, aiguillons-là, non ça, ça ne va pas, etc., revoyons ça. À eux trois, ce trio d'enfer qui fonctionnait jour et nuit, sans s'arrêter, pendant ben de 55 à 70, on peut le dire, quinzaine d'années, ils ont fait ce qu'on appelle les EGA, éléments de géométrie algébrique, 5 volumes, plus les SGA, séminaire de géométrie algébrique, 8 volumes, chacun à peu près 500 pages de volumes. Hein. Une montagne gigantesque de géométrie nouvelle. Alors la géométrie algébrique, c'est ce qui reprend la tentative de Descartes, qui était de remplacer la géométrie par de l'algèbre. Hein, Descartes avait eu l'idée de voir les courbes par des équations. Et là, cette idée-là est reprise à un niveau bien plus élevé, bien plus abstrait, parce que alors que Descartes travaillait sur l'ensemble des nombres ordinaires, eux, ils travaillent sur des espaces abstraits, et même qui ne sont pas des corps, il n'y a pas de division. Enfin bon, laissons le côté technique, parce que ça deviendrait inexplicable. Et ils refondent tellement puissamment et en profondeur la géométrie que le monde entier accourt à Paris, en disant, il n'y a qu'à Paris qu'on fait des choses nouvelles. Tout le monde venait à Paris dans les années 60. Hein. Et là, il y a eu une énorme refonte avec un énorme projet qui visait à résoudre plusieurs problèmes, dont certains ont été résolus, en particulier le théorème de Fermat, mais également des conjectures de André Weil, et d'autres conjectures compliquées de géométrie algébrique, difficiles, pas forcément compliquées, mais plutôt disons difficiles, qui réclamaient des outils très perfectionnés. Et la rupture extraordinaire de Grothendieck, c'est que, en 1970, il avait 42 ans, il dit « J'arrête, c'est terminé, je ne fais plus de maths. » Alors, on s'est posé la question, beaucoup se posent la question, de savoir pourquoi. Il faut expliquer que, spécialement pour lui, on avait créé ce qu'on appelle l'Institut des études scientifiques, un riche mécène suisse, riche mécène, avait fondé l'Institut des études scientifiques à Bures-sur-Yvette, spécialement pour lui. Et là, c'était pour accueillir des savants du monde entier, discuter, faire des conférences, des colloques, des échanges, des séminaires. Et Grothendieck s'était aperçu qu'il y avait 5% du budget qui était d'origine militaire. Alors là, ça n'allait pas du tout. Parce que c'était un pacifiste, si on peut dire que c'était un écologiste absolument convaincu et déterminé. Dans son époque parisienne, sauf l'époque au Brésil, où il n'avait pas le temps de tout raconter, il a vécu un peu à l'étranger, il est venu à Paris et a été naturalisé français en 70, simplement pour avoir une ressource alimentaire. Mais avant, il était apatride. Et donc, cet institut des études scientifiques a budgété pour 5% par des raisons militaires. Alors, ça, je crois que c'est un prétexte. Grothendieck a dit c'est intolérable, ou bien Motschan démissionne, ou bien je m'en vais. La vraie raison, enfin, les raisons. Alors, Serre, qui a correspondu avec Grothendieck de nombreux courriers, ça c'est un livre que vous pourriez ajouter à ceux de la bibliothèque qui sont en main, car vous avez des bibliothèques. Dans la bibliothèque, là, j'ai vu qu'il y a plusieurs ouvrages de Grothendieck. Celui-là, la correspondance Serre-Grothendieck est trouvable, et en plus, c'est lisible. Donc, pourrait être ajouté à la collection. Et bien, lui dit, finalement, tu t'es aperçu que c'était infaisable pour projet. Tu es passé par ta tâche. C'est possible. C'est peut-être en partie une raison. Une raison qui a fait que Grothendieck a abandonné les maths, parce que c'était vraiment surhumain, la tâche qu'il se donnait. Mais je crois que la véritable raison est ailleurs. C'est qu'il a déplacé son centre d'intérêt. Alors, il explique dans l'école de Dessemail qu'il a trois centres d'intérêt. Il a les mathématiques, les femmes et la méditation. Et il dit quelque part que c'est les trois choses qui viennent d'une même pulsion de connaissance. La pulsion amoureuse et la pulsion connaissance en mathématiques, ou la méditation, viennent d'une même pulsion de connaissance. Il explique ça dans l'école de Dessemail et dans les Dessanges à nouveau. Et alors, c'est la troisième qui l'emporte parce que, justement, dans la rencontre que j'ai eue avec lui, alors c'était en 73, alors pourquoi cette rencontre? Alors qu'il voulait voir personne, il était sauvage, il ne voulait pas, quand il était devant une classe, il se mettait au dernier rang, etc. Enfin, très curieux. Mais, j'étais à cette époque-là enseignant-chercheur à la faculté des sciences de Besançon, et les élèves, il y en avait des dynamiques cette année-là, se sont dit, mais on nous apprend plein de maths, mais à quoi ça sert? Et alors ils ont dit, mais on voudrait bien comprendre pourquoi on fait des maths. Et il y avait deux frères particulièrement dynamiques qui ont dit, mais on va faire venir des Parisiens qui nous expliquent, des gens de Bourbaki. Ils ont écrit, ils n'avaient aucun budget, ça fait rien, ils ont écrit. Et ils sont venus, les Parisiens, et en mon nombre, hein, il y avait Cartan, il y avait Schwartz, il y avait Dieudonné, il y avait Bonnement, et il y avait Grothendieck. Mais il fallait les loger. Alors Cartan, il avait une fille à Besançon, il logeait chez les elle, d'autres allaient à l'hôtel. Grothendieck avait dit, je veux aller chez l'habitant. Alors les étudiants avaient dit, ben, on va demander à Roux. J'étais à l'époque célibataire, j'avais un petit appartement, j'avais quoi loger effectivement. Et puis effectivement, mon travail de recherche était plus voisin de celui de Grothendieck. Et c'est ainsi que je vois débarquer ce bonze, cette espèce d'énergumène, crâne rasé, pieds nus, dans des sandales, en plein hiver, c'était fin janvier ou début février, à froid de canard, gardeuse dans son yacht, avec un imperméable pisteux qui tombait jusqu'en bas, à tout bagage, une caisse en bois, avec en travers vivre, survivre. C'était le nom de son mouvement, il avait créé un mouvement écologique, survivre et vivre. Et je vois ce grand type aux yeux, qui me dévisage, demande si j'étais du garde ou du cochon, et bon, qui me suit. Mais j'avais pas de voiture à l'époque, j'avais fait venir un copain qui avait une de chevaux, on est allé chez moi dîner, alors je saute l'épisode du dîner qui était un raconté, mais ça serait trop long. Après le dîner, mon copain s'en va, et on se trouve tous les deux. Alors il faut dire que tout de suite, on s'est tutoyé, hein. On ne se connaissait pas avant et ça ne fait rien, on se tutoie immédiatement entre chercheurs. C'est une raison d'humilité. Parce que ça veut dire, t'es comme moi, tu n'en sais rien. T'es comme moi, t'as plein de questions et tu ne sais pas les résoudre. C'est l'humilité des mathématiciens. Les mathématiques sont une école de l'humilité et de la modestie. Et plus ça va, plus je me rends compte qu'on s'est très peu, très compris par rapport à l'immensité de ce qu'il y a à trouver. Et lui le savait encore plus que moi, parce qu'il comprenait davantage. On s'assied dans ses jours. Première question, il me dit, tu aimes la poésie? Il était surnommé poète au Chambon, hein? Surnommé poète. Et il me dit tout de suite, mon poète préféré, c'est La Fontaine. Alors je lui dis, ah ben moi je m'intéresse à Paul Valéry, et je lui ai récité le début du Cimetière Marin, et je lui ai offert une petite brochure, enfin un fascicule, le recueil Charme, le recueil des poèmes de Valéry, parce que j'avais acquis les Pléiades après, et j'avais plus besoin de ce petit recueil que j'avais donné, et il avait été intéressant. Mais alors, deuxième question, à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Où en es-tu sur le plan religieux? Et avant même que je réponde, il me dit, moi, je m'intéresse à Krishnamurti. J'y se trouvait que j'avais lu, quelques mois avant, l'ouvrage, là, comment ça s'appelle, je crois, la première et la dernière liberté, quelque chose comme ça, de Krishnamurti. Et je lui avais dit, ça ne me paraît pas suffisant. Et puis ça, c'était assez vite tôt. Mais, ça c'est en 73, mais en 88, je vois dans l'école de Semaï, qui raconte son parcours religieux, judaïsme, protestantisme, hein, par sa mère et par Chambon, hindouisme, bouddhisme, dans les années 60 à 70 à peu près, et que là, en 88, il écrit « Krishnamurti, non, finalement, c'est pas suffisant. » Et bien alors, qu'est-ce qui allait le mobiliser tant en dehors des maths? La recherche tout simplement de Dieu. Alors Einstein disait « Je veux comprendre comment Dieu a fait le monde, un juif, croyant et pas pratiquant. » Il est complètement croyant, et il veut dire que le monde par Dieu. Hein. Et Copernic, c'est encore plus simple, je veux comprendre la pensée de Dieu. Rien que ça. Alors, il s'oriente de plus en plus vers ce qu'il appelle la méditation, qui est une forme de prière, et une introspection, par exemple, et la relation à Dieu, je vous l'ai dit, les rêves, alors là, il scrute les rêves, il étudie les rêves, et puis, il recherche et il entre en contact avec Marcel Legault, qui pour lui a été un personnage décisif. Alors Marcel Legault, c'était un universitaire qui était un mathématicien, bien sûr, mais qui avait la moitié de son temps à Lyon et la moitié de son temps dans les collines de la Drôme à garder des moutons. Et les textes de Marcel Legault l'ont tout de suite captivé. Il a carrément acheté tous les ouvrages de Marcel Legault, et il disait qu'avant même de lire la fin, il avait compté ce qu'il y avait dedans, et puis même il s'est rapproché. Il faut dire que Grothendieck a déménagé pas mal de fois, surtout dans le midi de la France, après avoir créé la communauté germinale vers Châtenay-Malabry, où il accueillait des clochards, enfin tous les gens qui passaient, il a créé une communauté dans l'Hérault, il avait acheté une vallée, et là c'est pareil, ça s'est cassé la figure en moins de 3 ans, comme sur Vivre et Vivre, ça s'est cassé la figure. Tout ce qu'il a entrepris a échoué dans tous les domaines où il était très généreux, hein. Il était vraiment très altruiste. Eh bien, après, c'est réfugié dans des coins cachés carrément dans une cabane, sans électricité. Et il avait déménagé ensuite pour se rapprocher de Marcel Legault en 90, mais Marcel Legault est mort en 90. Et alors là, il a déménagé une fois de plus et s'est installé à La Serre qui est dans l'Ardèche. Et si vous regardez une carte géographique, camp de Rieucros, où il était avec sa mère, camp du Vernet, où son père a été emmené à Auschwitz, La Serre, triangle équilatéral. Il est revenu vers les sources, où il avait son père, sa mère, pas très loin. Et La Serre, là, il a un petit peu embourgeoisé parce que initialement, il couchait que par terre. Là, il avait un ami quand même. C'est une des grandes choses, une des grandes énigmes que j'ai eues dans ma vie. Quand je lui avais passé ma chambre à Besançon, j'ai entendu un bâton terri quand il s'est couché. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans une autre pièce. Au dernier matin, je me dis, comment je vais retrouver ma chambre? J'entre, j'ouvre, intact, absolument comme je l'avais laissé. J'avais un des draps neufs qui était complètement fait, il n'était pas allé dedans, visiblement. Et je n'avais jamais compris. Jusqu'à ce qu'Yves Ladegaillerie me dise, t'inquiète pas, t'es sûr qu'il avait dormi par terre. C'était son habitude depuis son camp de concentration avec sa mère. Et toute sa vie, il dormait à même le sol. Donc là, après, il s'installe à La Serre et de plus en plus isolé. Alors il faut dire qu'il a eu plaqué ses 4 femmes successives et tous ses enfants. Environ une demi-douzaine d'enfants, c'est pas trop parce qu'il y avait en plus des maîtresses. Hein. Donc lui, il prenait l'amour libre, c'était très simple, alors, très complexe. C'était vraiment un être très 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 gourmand sur ce plan-là. Bon, il a eu donc pas mal d'enfants avec lesquels il a rompu, il les a envoyés promener, jusque dans les derniers mois de sa vie. Parce que à La Serre, il était en méditation et il écrivait énormément. Philippe de Roux l'a épié. Il a demandé à une rencontre, mais ça lui a été refusé. Il refusait toute rencontre. Hein. Il y avait des cartes de japonais qui venaient. Il les refusait. Il les envoyait promener. Il refusait tout contact avec qui que ce soit. Une personne était admise, Pierre Cartier. Il était un collaborateur à Bourbaki, un grand professeur à Paris. Le seul qui a pu entrevoir de temps en temps en botanique et voir où il en était et s'apercevoir de son délire finalement mystique. Alors, à La Serre, il a écrit. Dans la période de Montpellier, où il était, après avoir été professeur au Collège de France dans les années 1970, je ne sais plus exactement, mais chassé au bout de 2 ans parce qu'il ne faisait pas cours, il parlait de récolte de semailles de survivaliers, donc il a été éliminé du Collège de France et envoyé comme petit professeur d'université à Montpellier. Et là, il a écrit des choses et des mathématiques qui étaient dans un ordre quelconque, absolument dans le désordre, et sur toutes sortes de papiers informes. Hein. Il y avait des boîtes de couches pas en perse, il y avait des cahiers avec des papiers de toute nature, de différents formats. À La Serre, c'est tout le contraire. D'un coup, il a demandé à un artisan pas très loin de lui construire des boîtes bien capitonnées avec du tissu, et il écrivait très soigneusement sur des feuilles toutes identiques. Et comme ça, il a rempli 40 boîtes de 1000 pages à La Serre. 40 000 pages. Quand on ajoute à tout ce qui a été fait avant, eh bien, il a écrit plus de 100 000 pages dans sa vie. Plus de 100 000 pages. Même Victor Hugo n'en a pas fait autant. Alors, dans ces 100 000 pages, il y a pour moitié des maths, et pour moitié, récolter ce mail, dater des songes et d'autres textes de méditation, de philosophie. Il y en a notamment un sur l'enfer. De 500 pages, parce que en s'approchant de Dieu, eh bien, il s'approche aussi du diable. Et qu'il avait des frayeurs, des contacts avec le diable. Et donc, alors, Pierre Cartier l'a vu dans la mystique aller jusqu'à être, Pierre Cartier dit, devenir mariolâtre, c'est-à-dire passionné de Marie, la mère de Jésus. Alors là, c'est un point de divergence avec Simone Veil. Parce que leurs parcours sont parallèles, jusqu'à ce point-là. Disons que tous les deux ont été juifs, puis imprégnés de protestantisme, puis attirés par le bouddhisme et l'hindouisme, comme Simone Veil. Hein. Et puis finalement, Simone Veil a eu une révélation, c'était en quelle année ? C'était en 1937, je crois. En 1937, elle a eu une illumination et dit « Le Christ m'a saisi ». Même chose pour Grothendieck en 1976. Il a eu une rencontre, semble-t-il, avec le Christ. Alors il avait ce grand problème, pour vous qui suis-je dans l'Évangile, pour vous qui suis-je, et c'était, il disait, mon problème incontournable, il faut que j'arrive à répondre à cette question. Et donc, à la fin, effectivement, je considère qu'il est devenu chrétien comme Simone Veil, de la même façon, c'est-à-dire sans être baptisé, sans aller jusqu'au baptême, mais au fond des choses, parfaitement croyant en la divinité de Jésus. Sauf que Simone Veil s'est arrêté là, alors que lui avait, depuis toujours, depuis le bouddhisme et l'hindouisme, l'idée que tout allait par deux, le yin et le yang. Yin et yang, c'est la clé de sa pensée, il en parle souvent dans les Codes du Sommeil, le yin et le yang, et bien, il y avait Jésus et automatiquement Marie. Pour lui, c'était un couple yin-yang. Et donc, il est très attaché à Marie dans les derniers jours de sa vie. Alors, je vous ai dit que les contacts avec ses enfants, ce n'était pas fameux. Avec ses collègues, c'était pire. Alors, il s'est produit en 88, puisqu'il est né en 1928. Il va mourir en 2014. Alors, en 2008, il avait 80 ans. En 2008, il avait 80 ans. Et les anciens élèves, il y en a une douzaine, hein. Je vous ai cité le dernier, mais il y en a d'autres très importants, Bleu Mazur, Giraud, Verdier, et l'avant-dernier, Luc Illusi. Luc Illusi, un spécialiste de l'Orientation, avait eu l'idée de faire un colloque mondial pour fêter les 80 ans de Grothendieck, et évidemment de l'inviter. Alors les choses de ce genre-là, il les prend très mal. Il a écrit à Luc Illusi, le colloque a eu lieu, hein, et évidemment passionnant et intéressant. Il lui a écrit « Je t'enverrai une lettre qui ne te fera pas plaisir. » Il ne se mettait jamais en colère, Grothendieck. Il ne riait jamais. Jamais aux éclats, en tout cas. Vous le sourire, mais jamais de sang comme Jean Dieudonné. Il avait des colères froides. Alors là, quand on voyait son œil noir, c'était très noirci. Là, ça n'allait pas du tout. Et j'ai aperçu cet œil noir. Dans les derniers instants où on s'est côtoyé et où il m'a carrément jeté comme tout le monde, les uns après les autres, on est jeté après les autres. Bon. Et la lettre est venue début 2010, vous voyez, près de deux ans d'écart. Là voilà la lettre. Déclaration d'intention de non-publication par Alexandre Grothendieck. Je n'ai pas l'intention de publier ou de republier aucune œuvre ou texte dont je suis auteur, sous quelque forme que ce soit, imprimée ou électronique, que ce soit sous forme intégrale ou par extrait, texte de nature scientifique, personnelle ou autre, ou lettre adressée à quiconque, ainsi que toute traduction de texte dont je suis l'auteur. Toute édition ou diffusion de tel texte qui aurait été faite par le passé sans mon accord, ou qui serait faite à l'avenir de mon vivant, à l'encontre de ma volonté expresse précisée ici, est illicite à mes yeux. Dans la mesure où j'en aurai connaissance, je demanderai aux responsables de telles éditions pirates ou de telles autres publications contenant sans mon accord des textes de ma main, au-delà de citations éventuelles de quelques lignes chacune, de retirer du commerce ces ouvrages et de retirer ces ouvrages des bibliothèques. Si mes intentions d'auteur clairement exprimées ici devaient rester lettre morte, que la honte de ce mépris retombe sur les responsables des éditions et sur les responsables des bibliothèques concernées, dès lors que les uns et les autres ont été informés de mes intentions. Fait à mon domicile, c'est pas où, le 3 janvier 2010, Alexandre Grothendieck. Ça a tenu bon, les textes qui étaient même sur Internet ont été retirés, Internet. Ça, c'était en 2010.
Pas détruit.
Pas détruit, non. Et dans les derniers mois de sa vie, on se demandait, il y a eu toute une période de près de 10 ans, où on ne savait pas où il était, on ne savait même pas s'il était vivant. Pierre Cartier avait perdu sa trace. Il y a eu une période de 10 ans, on s'est demandé si Britannique était vivant ou mort. Et il raconte quelque part qu'il a eu des tentatives de suicide. Enfin, qu'il a pensé à se suicider, mais qu'il n'est pas allé jusqu'à l'acte de peur de se rater. Et que c'est ses plantes qui lui ont expliqué qu'il ne fallait pas se tuer. Parce qu'il a eu des dialogues avec ses plantes. Il vivait avec le jardin, avec les brins d'herbe qui étaient n'importe où, y compris sur la route. Si un pneu de voiture roulait sur une herbe, c'était un œil noir de côté. Très grave. Alors, à la fin de sa vie, il devait avoir des problèmes de santé, puisqu'il a fini à l'hôpital de Saint-Girons. Et il avait convoqué ses enfants pour leur dire adieu, à peu près 2 mois avant de mourir. Et là, ils se sont approchés, et aussitôt, il leur a tourné le dos, en leur disant s'en aller. Et après, il s'est excusé, il disait, j'ai été atteint par une bouffée du diable. Mais, dans le dernier mois de sa vie, il les a réinvités, et là, il a pu leur dire, je lève l'interdiction, là. Dans mes écrits, il y a de quoi faire une révolution dans l'humanité. Prenez-en soin. Les écrits qui étaient à la serre, ils sont pour vous. Alors, ils ont été réquisitionnés, si on peut dire, par le biais des professionnels de France, et ils attendent leur destin. Pour ce qui est de la partie Montpellier, le destin est fait, ça a été numérisé. Il y a des textes mathématiques gigantesques, extrêmement compliqués, difficiles, même les spécialistes n'arrivent pas à tout comprendre, on ne sait pas bien ce qu'on peut en tirer. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des mathématiques qui sont très puissantes et qui, en grande partie, ont déjà servi. Les Russes, par exemple, les utilisent pour la cosmologie, pour l'origine de l'univers, des choses comme ça. Mais en mathématiques pures, ça a déjà servi à résoudre des très grands problèmes, qui étaient vraiment des problèmes géants. Par exemple, le problème de Fermat, x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, à résoudre un nombre entier. Que Grothendieck, les méthodes de Grothendieck qui ont abouti. C'est pas Grothendieck lui-même qui est allé au bout, c'est les Anglais qui ont achevé le travail, mais les outils sont fournis par Grothendieck. Il fournit des outils et des pensées. Il ne va pas jusqu'au bout des problèmes. Les problèmes et la résolution, c'est pour les autres. Et donc là, l'avenir de ces textes, on ne sait pas. Peut-être que ça sera une université américaine qui va réussir à acheter tout ça. Ou alors... En tout cas, il y a des textes. Léla Schneps, sa quatrième femme, a eu un peu les yeux là-dessus. Elle dit qu'il y a des textes extrêmement riches au point de vue littéraire, purement littéraire, et d'autres au point de vue mathématique. C'est une mathématicienne, Léla Schneps, spécialiste de la dernière trouvaille de Grothendieck qui s'appelle les dessins d'enfants. Les dessins d'enfants, ce n'est pas du tout des amusements, c'est une théorie très subtile qui fournit des cartes. Des dessins, qui ressemblent à des dessins d'enfants, effectivement, des cartes extrêmement rudimentaires, avec des ronds, des traits, comme ça, des cartes du groupe de Galois absolu, c'est-à-dire de l'objet mathématique le plus compliqué qui soit, et qui commande toute la théorie. Donc vous voyez, il avait une vision simplificatrice, magnifique, pour comprendre un objet extrêmement compliqué. Il y a eu d'autres grandes trouvailles de Grothendieck. Au début, c'était la théorie du schéma, qui généralise la géométrie. Après, il y a eu les différentes théories cosmologiques. Mais celle qui me paraît intéressante, par-dessus tout, c'est la théorie des topos, à défaut de la théorie des motifs qu'on n'a pas encore, parce que c'est le cœur du cœur des maths qui est des motifs. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les motifs de Grothendieck. Les topos, c'est intéressant parce que il donne une nouvelle façon d'aborder la logique. Et finalement, ça va beaucoup plus loin que la logique aristotélicienne. Il faut écouter. Alors, sur Grothendieck, on n'a qu'un enregistrement audio. Un seul. Des photos, on en a une dizaine, qui sont parsemées, non dans l'ordre chronologique de cet enregistrement audio, qui s'intitule devons-nous continuer la recherche scientifique ? Voilà le texte, la conférence qu'il a donnée au CERN à Genève. Il avait donné. À l'époque où il était convaincu qu'il fallait arrêter la science. Parce que je lui avais demandé, à l'époque, en 1973, je lui avais demandé, penses-tu que le théorème de Fermat sera un jour démontré ? Il m'avait répondu aussitôt, non, c'est trop difficile et l'homme aura fait sauter la planète avant que ça soit possible. Il était convaincu que la bombe allait nous réduire très rapidement. Ça peut arriver, mais enfin, ce n'est pas encore fait pour le moment. Et donc, là, il était convaincu de ça. Alors, Grothendieck, dans sa pensée, va révolutionner les mathématiques. Et les topos, c'est une chose étrange, très compliquée à expliquer. Je ne peux pas vous en parler parce que ça, c'est la suite de la théorie des catégories, etc., etc. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que même en mathématiques, ce n'est pas 0 ou 1. Il y a des intermédiaires, et qu'on peut être à un pas de la vérité, ou à deux pas de la vérité, ou à 1000 pas de la vérité, ou davantage, et que cette théorie qui est à la fois souple et puissante débloque des paradoxes qui paraissaient bizarres. Il y en a un qu'on appelle le paradoxe de Hausdorff-Banach-Tarski, qui consiste à dire qu'il est possible de faire un puzzle sur une boule, de la couper en 6 morceaux, avec 3 des morceaux, faire une boule identique à la première, avec 3 des 3 autres, faire une boule identique à la première. Autrement dit, vous êtes passé d'une boule à 2 boules identiques à la première. Vous dites, c'est pas normal ça, pas normal. Le volume n'est pas conservé, le poids n'est pas conservé, qu'est-ce qui se passe? C'est pourtant mathématiquement vrai. Seulement les morceaux sont tellement compliqués qu'ils n'ont pas de volume. Alors, on ne peut pas raisonner en volume. C'est des morceaux extrêmement sophistiqués. Mais c'est vrai, on peut très bien faire ce qu'on appelle la multiplication des pains, c'est-à-dire, à partir d'une boule, en faire 2 identiques à la première. Et recommencer, bien entendu, autant fois que vous voudrez. Ça, c'est un paradoxe géant, qui n'est clair que dans la théorie des topos. Et alors, une autre chose qui avait été découverte en 1930 par le logicien Kurt Gödel, l'existence de propositions indécidables, c'est-à-dire de propositions qui sont à la fois vraies et fausses, ou bien ni vraies ni fausses. Il avait dit, on en comprendra. C'était en 1930. La première qui a été trouvée, rencontrée, a été vue par un Américain qui s'appelle Cohen, et c'était en 1964 ou 1965. C'est l'hypothèse du continu. Existe-t-il un infini entre l'infini du dénombrable et l'infini du continu, c'est-à-dire l'infini des nombres entiers et l'infini de tous les nombres réels que vous connaissez? Eh bien, la réponse, vous pouvez la choisir. L'homme a la liberté de choisir. C'est extraordinaire. Devant une vérité mathématique comme celle-là, on peut décider ce qu'on veut. Après, il faut s'en tenir à la décision. Mais vous pouvez continuer les mathématiques sans contradiction en choisissant votre réponse. C'est vraiment étrange. Alors depuis, on en connaît maintenant des milliers de propositions indécidables. Et là, la théorie de Topos est un outil fabuleux pour dominer ces questions-là. Oui.
Je veux dire un petit mot sur ce distinction.
Les prix, il s'en fichait complètement. Il a reçu la médaille Field en 1966. Il n'est pas allé la chercher. La distinction du médaille Field, c'est l'équivalent du prix Nobel, sauf que elle n'est décernée qu'une fois tous les 4 ans, et pas tous les ans. Et il n'est pas allé la chercher parce que la remise cette année-là se faisait en Russie, pays qui avait condamné 2 fois son père à mort par le tsar et par l'Iran. Alors le prix Crawford aussi, il a refusé en disant qu'il n'avait pas besoin d'argent, il lui avec ses modestes moyens, c'était plus la peine qu'il se dérange en Suède ou en Norvège pour aller chercher cette récompense. Il n'attachait aucune importance aux récompenses, il n'attachait qu'une importance à la connaissance, la vérité. Chose qu'a fait Perelman. Perelman, un russe, qui a résolu l'un des 7 problèmes de la Fondation Clé, c'est-à-dire des problèmes qui ont été posés en Indonésie. Sur les 7, il y en a un qui est résolu, c'est la conjecture de Poincaré, par le russe Perelman. La même chose, il n'est pas allé chercher sa, son prix. C'était pourtant une sortie de pas mal de millions de dollars. Mais c'est un original qui vivait avec sa mère, un peu comme Rotondi, qui lui est aujourd'hui un original très... pour dire quelques points saillants de sa pensée, dans sa pensée, il attache une importance énorme au rêve, même dans la découverte mathématique. Il disait aux enseignants universitaires, arrêtez de bourrer la tête des étudiants de vos intégrales, espèces vectorielles et autres complications, apprenez-leur à rêver. Mais le rêve éveillé. C'est un rêve très technique, très spécial que pratiquait Grothendieck dans ses découvertes, où on part de rien. Et dans un dénuement complet, on cherche le petit détail que personne n'avait jamais vu, qui après va germer, va grossir et va donner toute une théorie. Ça, c'était la force de Grothendieck, là, le rêve éveillé. Je vous ai dit que la pulsion de connaissance est de même nature que la pulsion amoureuse, ça je vous l'ai dit, et qu'il avait trois recherches intellectuelles, charnelles et spirituelles, issues d'une même pulsion. Il disait aussi, les mathématiques préexistent. Elles font partie de la nature de Dieu. Alors, ça c'est une question philosophique qui est largement débattue, et la plupart des gens pensent le contraire de ce que dit Grothendieck. Mais lui était convaincu de ça. Et, bon, je vous ai dit qu'il se sentait messager, successeur de son père. Alors, je vous résume aussi sa façon d'être. Il disait, sa devise, c'est la suivante. Pas de concession, pas d'économie, pas de faux semblants, pas de raccourci. Il disait ça à ses élèves. Et voilà les conditions pour faire de la recherche scientifique. Peut-être que vous avez des questions pour compléter ce bref topo qui a commencé cette année. Vous avez sûrement des questions.
Oui, dans la recherche,
oui.
C'est quoi le travail? C'est l'individu. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait faire quelque chose dans la recherche, ou est-ce que le génie a une manière de procéder qui est entièrement différente de l'algorithme qui cherche à répondre à un problème?
Alors, ça c'est une question que j'ai posée à Grothendieck justement quand on s'est rencontrés. Je lui avais demandé, est-ce que les ordinateurs pourront faire aussi bien que l'homme? Et il m'avait tout de suite répondu non. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. L'homme a une âme, pour lui, hein, c'est ce que répondait Grothendieck. Malheureusement, je n'ai pas pensé à lui demander qu'est-ce que tu entends par l'âme. Ça aurait été intéressant, mais on n'est pas allé plus loin. Bon, alors, quand même, pour répondre un peu plus à votre question, aujourd'hui, la recherche fonctionne par des laboratoires qui sont des groupes, en liaison par Internet. Rarement par individualité, comme ça a été pour Grothendieck, c'est très rare, ce phénomène-là est très rare. On peut avoir l'exemple de Andrew White, qui a résolu le point final de l'échafaudage dans le théorème de Fermat, qui lui a travaillé 7 ans dans un tunnel, tout noir, tout seul, c'est vrai. Il y a un exemple encore, Perelman aussi, vraiment individuel. Mais la quasi-totalité des recherches mathématiques qui se font aujourd'hui se font en groupe, en équipe, en laboratoire. Quant à l'intelligence artificielle, il ne fait aucun doute qu'elle va nous surprendre. Elle nous surprend déjà. Il y a des théorèmes informatiques qu'aucun homme ne pourra prouver. Ils ont été démontrés par des machines. Et on est incapable de vérifier. Ça, c'est vrai. Il y en a maintenant légion, hein, les théorèmes de l'intelligence artificielle. Mais ce sont certains types de problèmes où il y avait des algorithmes énormes à trouver, des arborescences, et il fallait trouver le cheminement, ou bien au contraire des vérifications. La machine fait mieux, c'est sûr que l'homme, elle fait beaucoup plus vite, et beaucoup plus loin, et beaucoup plus sûrement en plus. Seulement, l'aspect création et invention, pour l'instant, n'est pas tout à fait, mais néanmoins, il va venir aussi. Parce que on a bien vu ce qui s'est passé au jeu d'échecs, au jeu de Go, hein, où maintenant l'homme est complètement battu, même sur le plan intuition pure. là, en mathématiques, on peut s'attendre à des grandes surprises, et même, de façon générale, dans tous les domaines de connaissances, hein, en médecine, en physique, etc. Parce que l'intelligence artificielle va révolutionner tout, hein, de même que les machines puissantes, grues, pelleteuses, etc., avions, nous ont transformé la vie, c'est pareil. Là, on aura des machines électroniques pensantes, carrément, hein, qui seront capables de créer de la poésie, qui seront capables de trouver de nouveaux théorèmes, et c'est déjà vrai, hein, de nouveaux théorèmes qui ont été prouvés par des machines. Oui.
Oui. Juste, c'est un témoignage, c'est pas une question.
Oui.
J'ai eu une rencontre, moi, mais pas une rencontre physique, mais une rencontre par personne interposée.
Oui.
Dans les années 80, j'ai enseigné la philosophie au Collège Sénat, et j'ai eu à inscrire une jeune fille dont le papa était professeur de mathématiques à l'Université de Montpellier, Artibano Micali, je ne sais pas si c'est
un nom.
Artibano Micali, c'est un Brésilien. Et qui a inscrit sa fille en terminale ici parce que mathématicien, sa fille faisait une réaction négative aux mathématiques. Elle a inscrit ici. Il m'avait dit à l'époque que ben, c'est grâce à Gottendieck qu'il a indiqué l'établissement et que ce serait bien qu'il mette sa fille ici. Moi, avec Artibano Micali, on a passé 2 ans. C'est lui qui m'a fait découvrir. Papa, c'est toi ? C'est lui qui m'a fait découvrir, au fond, toute la pensée de Gottendieck.
D'accord.
Et je pense, vous avez raison tout à l'heure quand vous disiez qu'il n'était pas que mathématicien.
Oui.
Il était aussi...
écrivain.
Non seulement écrivain, mais qui portait sa réflexion même métaphysique.
Ah oui, oui, tout à fait. Monde. Tout à fait. Et c'était central. Oui, oui.
Et quand j'ai lu en partie, j'ai pas tout lu de Récolte de chemin, oui. On trouve là quand même une réflexion très très profonde sur l'homme.
Oui.
Et un peu pessimiste aussi sur l'humanité.
Oui, oui,
tout à fait. Pessimiste sur l'humanité aussi. Hein.
Ah oui, tout à fait. Il y a un dernier détail. Oui, vous avez une question ?
Non, c'est pas une question. Ouais. Vous avez dit que l'électroconvulsion thérapie avait un intérêt très important pour les femmes. Il semblerait que c'est commencé au chambre.
C'est une anecdote, d'un témoin de premier rang, quand il serait tombé amoureux d'une jeune fille qui était réfugiée et qui était élève à l'école nationale. Et au cours de ses rendez-vous amoureux, elle lui a dit « Oh, il faut que je demande à mes parents. » Et la réponse de Gottendieck a été « Quoi ? Tu as 16 ans et tu vis encore avec tes parents ?» Alors après Lilith, je ne sais pas ce que c'est devenu.
Il y a un tout dernier état que je voulais vous dire, c'est le regard de Gottendieck. Je vous ai parlé de temps en temps de son œil noir quand il est fâché, quand il n'est pas content. Alors, je l'ai vu dans une toute autre série. Tout autre regard. À la fin de la soirée, la première soirée où j'étais chez moi à Besançon, je lui ai parlé de questions sur la poésie, sur la région. Après, il m'a parlé de ma sommeil, de vacances, etc. Ouais. La toute dernière question à la fin que j'attendais et que je redoutais, il m'a dit « Où en est ta recherche ?» Mathématique, hein. Je lui ai expliqué. Et là, j'ai vu son regard se transformer. Mais alors, quelque chose que je n'ai jamais vu chez personne. Et un regard qui est devenu brillant, lumineux, à tel point que c'était carrément deux phares qui envoyaient des rayons. Et les rayons me percutaient la poitrine, me faisaient vibrer là-dedans.
C'est
un extraterrestre. Non. Et il ne disait pas un mot. Il se contentait d'acquiescer des petits mouvements de tête, pour me dire explique-moi la suite, etc. Vraiment étrange ce regard, à tel point que j'étais quasiment paniqué. Et je lui dis, mais ou bien il va exploser, ou bien il va me dévorer. Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, je regardais ma montre, il était minuit, je lui dis, il est peut-être temps qu'on aille se reposer. Il m'a fait simplement oui, sans prononcer un mot. Et après, il ne m'a pas parlé un instant de ma recherche. Je lui ai raconté ce que j'avais fait, bon. Il ne m'a pas parlé un instant. Et chose curieuse, 3 ans après, un de mes camarades de l'ambassade, Jean-Louis Colliot-Hellem, qui était un directeur de recherche spécialiste de géométrie algébrique, me dit, mais t'as vu,
l'équation là, que tu as travaillée, elle est dans les EGA de Gottendieck, à la page temps. Le livre était de 72, mon travail était de 72. On a trouvé en même temps la même chose par des voies complètement différentes. La méthode de Gottendieck était avec un millier de pages sans équations extrêmement savantes avec des notions que je ne connaissais pas. Ma méthode à moi était 3 pages de calcul un peu laborieux et bourrin. Mais on trouvait exactement la même chose par des voies très différentes. Alors ce genre de phénomène s'est produit 1000 fois et même davantage dans les électriques. Il y a un exemple célèbre, c'est la découverte du calcul intégral des différentiels, Newton d'un côté, Leibniz en Allemagne, et à tel point que ça fait un conflit entre les États. Mais c'est bizarre à croire qu'il y a une espèce de pensée universelle qui circule entre les États. Je m'arrête là parce que là, on irait loin.